Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Douleur, saignement, fièvre, vertige, engourdissement, comment distinguer les symptômes d'une infection bénigne, d'une véritable urgence médicale? La question qui nous intéresse aujourd'hui s'articule autour de deux enjeux aussi différents qu'importants. Éviter de négliger un véritable risque, renoncer à consulter avec à la clé un risque vital pour des pathologies qui appellent une prise en charge immédiate, comme par exemple un AVC, un infarctus, un choc anaphylactique ou encore une occlusion intestinale aiguë, et de l'autre côté, ne pas se précipiter aux urgences pour des premiers soins qui ne nécessitent pas une intervention rapide. Cesser de recourir à ce service comme un substitut de médecine de ville, éviter d'encombrer les salles d'attente et de mobiliser des équipes déjà surchargées. Comment définir le degré critique du symptôme? Une question importante lorsque l'on sait qu'en France, 20% des passages aux urgences ne donnent lieu à aucun acte médical. Avec nous en studio, professeur Frédéric Adnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne, également directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. Vous avez co-signé avec Sandrine Trouvelot le livre « Y a-t-il urgence ? Reconnaître les situations d'urgence médicale » publié chez Flammarion. Également avec nous, le docteur Massamba Sassoum Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar, au Sénégal. Et tout à l'heure, nous serons en ligne avec Yaoundé où nous retrouverons le docteur Fernand Ombolo, président de SOS Médecins Cameroun. Et puis en fin d'émission, on va rejoindre le docteur Léopold Kodjo, cardiologue au CHU départemental de Borgo, Bénin, pour parler de la 6e édition de la semaine du cœur de Parakou, campagne de sensibilisation toute la semaine à l'initiative de l'ONG Vie Saine, Cœur Sain. Et bien sûr, votre numéro, c'est celui de l'émission, si vous voulez poser vos questions, le 33 1 80 82 75 75.
RFI.
Le délai de prise en charge d'un patient peut se révéler crucial. Lorsque l'on est chez soi et qu'on ressent un malaise, pas toujours évident d'évaluer la gravité de la situation. Est-ce qu'il faut attendre ou partir immédiatement pour l'hôpital? Est-ce qu'il faut enfin appeler directement un numéro d'urgence? Ce sont en fait les trois grands choix qui s'offrent aux malades, professeur Frédéric Adnet, dans votre livre qui se présente de façon très pratique, avec toute une liste de symptômes. Vous donnez des pistes justement pour définir ces degrés d'urgence. Mais justement, faire ce choix, est-ce que ce n'est pas une responsabilité un petit peu trop délicate pour toutes les personnes justement qui se posent des questions? Est-ce que je dois consulter les urgences ou est-ce que je dois rester chez moi et attendre?
Bonjour, c'est effectivement un exercice extrêmement difficile auquel on s'est attelé parce que il est toujours difficile pour un médecin de dire ne venez pas à l'hôpital, ne venez pas consulter. Il est beaucoup plus facile de dire mais quel que soit votre symptôme, finalement appelez le SAMU, on fera le tri et on verra après. Et c'est un petit peu ce paradoxe qui a nourri ce livre, car nous, médecins urgentistes, on est souvent un peu frustrés, désabusés lorsqu'on arrive chez un patient et qu'il est trop tard. Il est décédé alors qu'il avait des symptômes que ce patient avait négligé. À l'inverse, l'autre paradoxe, c'est de voir des patients qui appellent le SAMU, qui viennent aux urgences et qui finalement n'ont rien parce qu'ils ont des symptômes qui finalement correspondent à quelque chose d'extrêmement bénin et pour lequel ils auraient pu appeler leur médecin traitant.
Parce qu'en France, professeur Frédéric Adnet, quand on arrive aux urgences, on est forcément pris en charge, même si c'est pour quelque chose de bénin, c'est obligatoire.
Tous les patients qui se présentent aux urgences vont être d'abord évalués. On va définir son degré, sa pathologie, son degré de gravité, et tous les patients vont voir le médecin en fonction, c'est ce fameux délai d'attente, il est fonction de la gravité. Tous les patients qui sont extrêmement graves vont être vus tout de suite, et les patients qui ont des pathologies, on va dire, un peu plus bénignes, attendront, mais tous les patients seront évalués, examinés et soignés.
Alors pendant cette émission, on va comparer à l'état de cette médecine d'urgence, de ces services ici en France, avec vous, hein, professeur Frédéric Adnet, et puis regard croisé, hein, l'approche d'autres urgentistes. Docteur Massamba Sassoum Diop, quelle différence majeure entre les urgences à Dakar, hein, où vous êtes à la tête de SOS Médecins, et en région parisienne, puisque vous officiez comme médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne?
Oui, alors la particularité, c'est qu'effectivement, en Afrique, les patients, quand ils vont aux urgences, ils sont dans des pathologies bien plus évoluées et bien plus graves. Et c'est clair qu'il y a quand même, hein, des personnes qui pourraient être vues par un médecin de ville, mais sur le nombre, ça n'a rien à voir. On est quasiment à 70-80% en Europe de patients en France qui pourraient être souvent vus par le médecin généraliste avec quelques examens complémentaires éventuellement, alors qu'en fait, en Afrique, les patients viennent vraiment dans des états graves.
Et on est plutôt dans l'autre problématique, c'est-à-dire venir parfois trop tard.
Alors justement, et on se retrouve saturé par des patients, effectivement, pour lesquels il faut faire des réanimations extrêmement lourdes. Ça, c'est une chose. Mais ce que je trouvais aussi très intéressant dans le livre du professeur Adnet, c'est aussi le fait que aujourd'hui, avec Internet, les gens, dès qu'il y a quelque chose, ils vont direct. Et du coup, n'arrive pas forcément à faire le tri.
Qui d'ailleurs avoir le pire.
Voilà, et dans les informations. Je pense que ce livre-là aussi a cet intérêt majeur pour moi, qui est de pouvoir un petit peu mieux avoir quelque chose, mais vraiment avec une source. Et une source de quelqu'un qui en fait son métier et qui le fait depuis maintenant quasiment une trentaine d'années.
Si alors oui, le grand public peut se dire un livre ça va être compliqué, mais pas du tout, hein, parce que c'est très pratique avec des questions concrètes. Par exemple, si on feuillette le livre, on regarde les différentes situation, par exemple, j'ai du mal à parler ou à bouger un bras, une jambe. Dans ce cas-là, professeur Frédéric Adnet, vous le dites, hein, il faut consulter en urgence.
Tout à fait. Dès qu'on sent qu'un bras ne fonctionne plus, qu'une jambe ne fonctionne plus, qu'on tout d'un coup, brutalement, on n'arrive plus à parler, on recherche ses mots. Là, on est sur une pathologie ultra urgente, tellement urgente que pour nous, d'arriver dans les premières minutes, dans les premiers instants, c'est essentiel parce que nous avons les moyens actuellement en France, je parle bien sûr de l'accident vasculaire cérébral, de guérir complètement le patient, c'est-à-dire qu'il va retrouver son état antérieur si on arrive dans les moins, on va dire dans les moins de 4 heures après le début des symptômes. Mais plus on arrive tôt, plus les chances de recouvrer son état de santé antérieur augmentent. Parce que maintenant, on a des techniques qui permettent effectivement de guérir complètement d'un accident vasculaire cérébral. Et donc, ces petits signes, quelquefois, les patients disent « Oh, ben, on va attendre » ou quelquefois, ça passe, ça revient et on a pas mal, donc on ne considère pas que c'est forcément grave. Ces petits signes sont des signes, au contraire, extrêmement graves. Il faut appeler le SAMU, il faut faire le 15, car le patient va être dirigé dans une voie tout à fait spécifique qui va permettre de traiter son problème.
Alors les patients en ont l'habitude, quand ils vont voir le médecin, on leur pose toute une série de questions. Ce sont justement ces questions, c'est cette grille qui est proposée dans votre ouvrage, avec d'abord la localisation de la douleur, et puis justement ces fameuses questions, ces signes qui peuvent être repérés pour essayer de savoir si c'est vraiment justement urgent. Vous soulignez justement ce côté essentiel, c'est le facteur temps.
Tout à fait. Hein. La médecine d'urgence, c'est une médecine qui dépend du temps, dont les résultats dépendent du temps. Et plus on va vite, meilleur on a des résultats. La douleur est un symptôme tellement banal que quelquefois il est négligé. Et dans ce livre, on a pu essayer de classifier des symptômes qui effectivement confortent le patient vers la bénignité, c'est-à-dire une maladie qui est forcément pas très très grave. Mais il y a des petits signes qu'on connaît bien nous, médecins, qu'on a essayé de traduire dans cet ouvrage grand public, qui doivent faire inquiéter le patient. Je vais prendre un exemple. exemple, cette douleur qu'on a dans la poitrine, si par exemple elle va au bras gauche ou si elle va à la gorge, là c'est des signes très très inquiétants qui font qu'il faut appeler le SAMU, parce que dans l'infarctus du myocarde, c'est comme dans l'AVC, plus on arrive tôt, mieux sont les résultats.
Alors docteur Massamba Sassoum Diop, hein, le cœur de cette médecine d'urgence, c'est ce qu'on appelle le triage, la hiérarchie des besoins. Ça peut se passer soit dans la salle d'accueil des urgences, concrètement à l'hôpital, ou au téléphone.
Oui, alors effectivement, un patient qui arrive aux urgences, il faut arriver à savoir, est-ce qu'on va le voir immédiatement? Et vous avez quelquefois des patients qui font énormément de bruit pour une simple petite, je sais pas, plaie par exemple de l'enfant, et qui veulent passer tout de suite. Donc il faut hiérarchiser, bien évidemment, de la même façon qu'on va le faire au téléphone lorsqu'on fait une régulation, de la même façon d'ailleurs avec ce qui s'est passé lors des attentats par exemple, ou dans, lors de catastrophes, ou dans tous les cas on fait ce type de triage. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit en Afrique, qu'on se retrouve, quand je veux comparer un petit peu les choses, c'est qu'aujourd'hui, et là on a fait nous une très grande étude pour voir, qui montre qu'on a un croisement avec les pathologies, je parle en ville, hein, où là quand même bientôt 50% de la population en Afrique qui va vivre dans les villes, où on se retrouve avec des pathologies justement cardiovasculaires, neurologiques, c'est-à-dire l'AVC, c'est, on en voit tous les jours, les infarctus on en voit maintenant tous les jours, les arrêts cardiaques bien sûr, qui sont les complications extrêmes, on les voit tous les jours, et donc encore une fois on rejoint vraiment cette problématique de ces extrêmes urgences avec la nécessité pour le patient pour qu'il puisse être traité plus vite. C'est évident que les moyens sont pas tout à fait les mêmes et que aujourd'hui en France, quand on voit les traitements qui sont faits pour l'AVC avec soit la thrombolyse, soit avec la thrombectomie ou en tout cas toutes les manières de les prendre en charge, on a peut-être pas toujours autant encore quand nous avons fait les deux premières thrombolyses des accidents vasculaires cérébraux à Dakar. Mais le problème, il est qu'effectivement, dans tous les cas, même un infarctus, le seul fait de prendre de l'aspirine va déjà avoir un effet, même si on n'aura peut-être pas la coronarographie derrière dans toutes les régions du Sénégal, d'Afrique, quels que soient les pays. Donc c'est pour ça que ça reste malgré tout valable et c'est à adapter au pays selon les moyens et selon les outils qu'il y a pour répondre. Quelquefois, il y a des SAMU, quelquefois, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que ça reste très important.
Professeur Frédéric Adnet, vous dirigez le service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, hein, c'est au nord-est de Paris. L'an dernier, 110 000 passages aux urgences. Quels sont les symptômes les plus fréquents?
Alors, heureusement, les patients qui viennent aux urgences, les patients tout venant, ce ne sont pas des patients extrêmement graves, hein, et Dr Diop l'a bien souligné tout à l'heure. Les symptômes, on va dire, les plus fréquents, c'est souvent des douleurs abdominales, hein, c'est souvent la douleur qui fait venir. La petite traumatologie, hein, quand on se tord la cheville, quand on tombe, quand on se fait mal à un poignet, toute la petite traumatologie, c'est, on va dire, en gros, 30% de nos patients. Les douleurs abdominales, tous les syndromes gastro, c'est-à-dire les diarrhées, les malaises, tout ceci, c'est, si vous voulez, le plus grand commun dénominateur des patients qui viennent aux urgences. Et parmi tous ces patients, ben, on a quelques urgences vitales. Les patients qui ont mal dans la poitrine, qui font un infarctus, des patients qui ont un accident vasculaire cérébral. Et ce qui est un peu embêtant, c'est que ces patients, quand ils viennent aux urgences, ils n'ont pas appelé le SAMU. Et donc, on a déjà une perte de temps. Puisque pour les urgences vitales, il vaut mieux bien sûr appeler le SAMU et bypasser les urgences.
Vous restez avec nous, hein, professeur Frédéric Adnet, docteur Massamba Sassoum Diop. On va prendre dans quelques instants un auditeur en ligne.
Priorité santé sur RFI.
Et cet auditeur, il est en ligne du Cameroun, de Douala, c'est Crépin. Bonjour Crépin.
Bonjour.
On écoute votre témoignage.
Bon, ça fait déjà deux mois et demi que j'ai été admis à la clinique de Douala suite à un accident de circulation. J'ai eu une fracture au niveau de l'avant-bras gauche, une double fracture. Bon, j'ai été admis aux urgences de la quinquennie. Bon, le service que j'ai rencontré là-bas était vraiment déplorant de ma part parce que j'ai passé plusieurs temps à attendre de rencontrer un médecin pour qu'on puisse me prendre en charge. Et bien après, on m'a pris en charge pour rencontrer un chirurgien puisqu'on devait m'opérer. J'ai attendu, j'ai patienté 4 jours de cela. Et bien après, avoir rencontré le chirurgien, bon, le coût était tellement élevé pour l'opération, bon, j'ai opté changer de ville pour me faire opérer et me faire des séances de kiné, bien en fait.
Crépin, 4 jours avant de voir un chirurgien pour une fracture. Docteur Massamba Sassoum Diop, c'est édifiant, on ne peut pas parler d'urgence, attendre 4 jours avec une fracture.
Alors, quand vous regardez un petit peu la presse aujourd'hui dans nos pays, des cas comme ça ressortent.
C'est très fréquent.
C'est évident. Alors, en tout cas, c'est fréquent. Et c'est un véritable problème. Et c'est là où on voit l'importance de plusieurs choses. La médecine d'urgence, c'est extrêmement transversal. Donc ça veut dire des services qui doivent être compétents dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'en Afrique, on a beaucoup encore de traumatologie. Peut-être encore plus qu'ici, en tout cas de traumatologie plus importante. Hein. La petite traumato, on en a toujours en France et en Europe. Mais par contre, l'autre problème, et on le voit, c'est ce problème, encore une fois, de prise en charge. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à un système... Alors, une fois on parle de CMU, une fois on parle de mutualisation, une fois on parle d'assurance privée, mais en tout cas ce qui est sûr, et même j'ai vu quelque chose d'extrêmement intéressant, on en discutait, c'est le fait, vous savez les opérateurs maintenant téléphoniques, la possibilité éventuellement à chaque fois qu'il y a une opération, qu'il y ait sur le bénéfice un petit pourcentage, et ça serait dans le cadre, vous savez, on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise et tout, de mettre une petite somme sans que même la personne le sache, en fait, ça serait vraiment un opérateur qui ensuite développerait ce concept et qui permet de créer une sorte de sécurité sociale sans que la personne s'en aperçoive, avec des petits prélèvements qui deviennent multiples et qui fait que la personne a un droit à des frais médicaux, a un droit à la pharmacie, mais vraiment qui changerait tout, parce que ce qui a changé la prise en charge en Europe de la médecine, c'est le fait que tout le monde cotise et que tout le monde a accès aux soins.
Cet accès très important.
Et là, on le voit. Et après, il y a la qualité ensuite de chacune des prises en charge avec la formation des gens. Et ça, c'est aussi, c'est plus une politique aussi d'État à ce moment-là.
Alors, avant le point de l'actualité, un témoignage qui vient du Tchad, de N'Djamena, en ligne avec nous, Jessé. Bonjour, Jessé.
Oui, bonjour.
Vous vouliez nous parler de votre expérience personnelle.
Oui. Bon, comme je le disais dans mon message, je suis un tel. Et bon, je suis au niveau de l'hôpital régional d'Abéché, c'est un hôpital qui est considéré comme l'hôpital de référence du Nord-Est et du Tchad. Et là-bas, on a beaucoup de problèmes. Et d'abord, comme le disait le docteur, associé aux problèmes de trois retards associés à ces problèmes, on a encore d'autres problèmes comme le problème de manque de personnel qualifié et les gardes malades qui sont trop agressifs et le nombre de patients qui sont très important. Imaginez, dans l'hôpital régional, les soins intensifs comptent que 2 lits et il n'y a pas de réanimation.
Alors,
oui,
la ligne n'est pas très très bonne. Si je peux résumer, c'est surcharge du service, problème de qualification des personnels, donc un grand manque de moyens dans cet hôpital régional d'Abéché. Docteur Massamba Sassoum Diop, c'est quelque chose qui est fréquent, surtout quand on sort justement des systèmes médicaux, des capitales.
Ça, c'est évident, c'est un énorme problème. Mais en même temps, on a vraiment, on le voit là, puisqu'en fait, il y a plusieurs sociétés qui sont entre les médecins anesthésistes, les médecins urgentistes, qui sont en train de se développer en Afrique avec justement le fait de faire des vrais urgentistes avec des vrais cursus universitaires. Donc les choses sont en train de bouger. C'est extrêmement récent en France. Je pense que le professeur Adnet en parlera. C'est que finalement, la spécialité de médecine d'urgence, c'est depuis un an que c'est possible à l'internat. Donc, ça a toujours été le parent pauvre, les urgences. On mettait toujours les personnes, on mettait un jeune interne, on mettait un jeune externe, et on appelait ensuite un chef éventuellement quand c'était nécessaire. Alors que c'est l'inverse. Il faut avoir l'énorme compétence transversale parce qu'on voit les patients, justement, en situation d'urgence.
Merci en tout cas pour ce témoignage du Tchad. Hein. Vous restez avec nous, professeur Frédéric Adnet, docteur Massamba Sassoum Diop. On va se retrouver dans 3 minutes, hein, après les informations. On parlera encore, bien sûr, des urgences médicales, la vision des choses ici en France, ce qui se passe aussi en Afrique. Nous serons tout à l'heure en ligne, notamment avec le Cameroun. Et vous pouvez continuer à nous appeler. Le numéro de l'émission, c'est le 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on se retrouve pour cette seconde partie de Priorité santé consacrée aux urgences médicales. Nous sommes toujours avec le professeur Frédéric Adnet, chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne, co-auteur de l'ouvrage Y a-t-il urgence ? Reconnaître les situations d'urgence médicale, publié chez Flammarion, et avec le docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste entre le Sénégal et la France. Quand on est à Dakar et qu'il y a urgence, certains font appel à SOS Médecins. Vous présidez SOS Médecins à Dakar. Pourquoi avoir créé ce service ? Est-ce que c'est pour pallier justement les carences du système public ?
Alors rapidement, on a différents types d'activités. L'activité classique des SOS médecins, de visite à domicile, c'est de la petite urgence. Donc ça, même ça peut être du niveau d'un c'est un médecin généraliste et tout. Mais par contre, effectivement, pour moi, il était inconcevable de créer un système d'urgence au Sénégal sans y mettre les ambulances de réanimation, celles où on sauve vraiment des vies. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai eu à plusieurs niveaux du vécu extrêmement difficile avec des patients qui sont décédés et pour lesquels, pour moi, c'était pas normal et que c'était pas pensable que ça se passe comme ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu cette expérience de SAMU et des SOS médecins en France. Pour moi, il était évident qu'il fallait revenir au Sénégal et créer une structure qui puisse prendre en charge selon les normes, les critères internationaux et de pouvoir proposer ça à la population. Alors, certes, c'est dans la ville, hein.
Et à quel public, vous dites à la population, mais ça s'adresse à quel public?
On a, quand on prend nos statistiques, on a à peu près un tiers qui sont des patients à bas revenus, 40% à niveau intermédiaire et les autres à haut revenu. Voilà à peu près la population. Donc, vous voyez, elle est diverse. C'est évident que, comment dire, il y a de tout. Hein, je peux pas.
Mais une question concrète pour la prise en charge, ça se passe comment ?
Eh ben, en fait, par exemple, quand vous avez les gros, alors, quelqu'un qui est chez lui et qui, je sais pas, une diarrhée à tous, à le nez qui coule, c'est logique, il sait que s'il appelle SOS, c'est logique qu'il paye, quoi. Donc, en fait, là, il n'y en a pas de problème d'impayé, parce qu'on ne fait pas de sélection à l'appel. Mais par contre, c'est vrai que vous voyez quelqu'un qui tombe dans la rue, vous nous appelez, on vient.
Urgence vitale.
Et il paye pas. Et donc, tous les jours, nous avons des patients qui ne payent pas. Sur des patients graves comme ça. Bon, ben, voilà. Et c'est comme le SAMU national, c'est comme, pour nous, c'est impensable, en tout cas, de dire au téléphone, est-ce que vous êtes, puisqu'on n'a pas de système d'assurance interne, voilà, propre à SOS ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de pré-financement, si j'ose dire. Donc voilà. C'est évident que c'est compliqué et que, économiquement, la partie médecine d'urgence de réanimation, c'est une perte systématique d'environ, on subventionne à peu près en euros ou en francs CFA 300 000 CFA, je dirais 450 000 la sortie, je dis la partie réanimation, les autres sont excédentaires, celle-là est déficitaire. Voilà.
Professeur Frédéric Adnet, vous êtes également directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. En France, il y a beaucoup de services, hein, SAMU, SMUR, pompiers, urgence. Comment est-ce qu'on sait qui on doit appeler ?
Alors effectivement, il y a beaucoup d'acteurs dans on va dire ce qu'on appelle les urgences au sens large. Mais ces acteurs sont complémentaires. Lorsque l'on fait le 15, lorsqu'on appelle le SAMU, c'est qu'on a une urgence médicale. C'est qu'il y a un problème médical, une urgence médicale. On va appeler le 15, on va tomber sur un médecin urgentiste qui va faire une sorte de tri, qui va hiérarchiser les symptômes et qui pourra, lui, déclencher des secours adaptés aux signes qu'il va trier au téléphone. Ça peut être une douleur dans la poitrine, un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral pour lequel il va envoyer ce qu'on appelle un SMUR. C'est-à-dire, c'est une ambulance avec un médecin, un infirmier, un ambulancier, souvent un interne ou un stagiaire. Et là, c'est l'urgence vitale. Le SMUR va arriver très rapidement, souvent en complément avec ce qu'on appelle, nous, des premiers secours ou des prompts secours. En France, c'est souvent les pompiers qui font ces gestes-là. Ce sont des gestes de secourisme en attendant la venue du médecin. Mais ça peut être, par exemple, un accident de la voie publique pour lequel le médecin du SAMU va envoyer les pompiers. Mais il peut aussi, sur des urgences qui ne sont pas vitales, qui peuvent être gérées à domicile, ben, il va donner des conseils médicaux, où il va demander aux patients d'aller dans une maison de garde médicale, où il fera intervenir un médecin libéral qui pourra se rendre à son domicile, dans des associations de médecins comme SOS Médecins, par exemple. Vous voyez, il pourrait aussi envoyer une ambulance privée ou des secouristes. Ce qui fait la richesse du système français, c'est que à partir du SAMU, du centre 15, de faire le numéro 15 pour une urgence médicale, on a toute une panoplie de réponses qui vont du simple conseil médical à, si vous voulez, l'envoi des moyens lourds comme le SMUR, l'ambulance médicalisée.
Et qui correspondent aux besoins. Tout à l'heure, notre auditeur du Tchad soulignait le problème de formation. Et c'est vrai en Afrique, c'est vrai aussi en France, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est récent cette spécialisation. Vous êtes urgentiste, vous l'êtes devenu sur le tas, vous n'aviez pas été formé spécifiquement pour ça, professeur Frédéric Adnet ?
Alors, non, puisque à l'époque où j'ai choisi la médecine d'urgence, elle n'existait pas comme spécialité. Et c'est vrai qu'en France, on accuse un retard tout à fait anormal par rapport, par exemple, aux pays anglo-saxons. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la médecine d'urgence est une spécialité comme la cardiologie. Et c'est d'ailleurs la première spécialité demandée par les jeunes médecins. Donc c'est une vraie spécialité. En France, on vient d'avoir ce qu'on appelle le DES, le diplôme de spécialiste de médecine d'urgence, qui vient d'être créé cette année. On a la première rentrée cette année. Il existait sous une forme un petit peu annexe les années précédentes, sous la forme d'un diplôme complémentaire, mais cette fois-ci, on a comme la cardiologie, comme la neurologie, maintenant on a la médecine d'urgence, qui est une véritable spécialité à la fois pour la pratique, mais aussi une spécialité universitaire avec des professeurs de médecine d'urgence, et on l'enseigne maintenant, comme toutes les autres spécialités, à la faculté de médecine.
Alors, on a évoqué tout à l'heure la situation à Dakar. On va maintenant rejoindre Yaoundé pour retrouver le docteur Fernand Mbolo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et vous présidez sur place au Cameroun l'antenne de SOS Médecins. Même question que celle que j'ai posée tout à l'heure à votre confrère du Sénégal. Docteur Fernand Mbolo, pourquoi avoir créé SOS Médecins au Cameroun ?
La question des urgences médicales est une problématique pérenne dans tout système de santé, tant il est vrai que la légende veut que le médecin soit celui qui sauve les vies en détresse et qui place d'ailleurs les services d'urgence en première ligne d'action dans le système de soins de l'hôpital. Mais en se penchant un peu plus différemment sur la question, ou mieux en la updatant, on peut se rendre compte que les approches ne sont pas tout à fait transposables à tous les contextes. Et en d'autres termes, l'instabilité socio-économique et parfois même politique reste un frein considérable dans certains pays, notamment d'Afrique subsaharienne, à la mise sur pied des infrastructures adaptées à la gestion immédiate et appropriée de tous les types d'urgences. Et quand bien même ce serait fait, reste encore l'épineux problème de la pauvreté dans l'accessibilité homogène aux soins de santé, de qualité, quand on sait que la couche moyenne et faible est la plus vulnérable sur le plan sanitaire. Si certains pays en développement en Afrique de plus en plus parviennent à se doter d'un plateau technique de plus en plus adapté à la gestion des urgences ou en réanimation, avec un standing dans certains cas n'ayant pas grand-chose à envier à des pays plus développés, je pense notamment à SOS Médecins Dakar, ce qui, dans ce dernier cas, remet au premier plan l'intérêt des initiatives citoyennes dans nos systèmes de santé pour la gestion extra-hospitalière des urgences médicales.
Docteur Fernand Mbolo, on citait tout à l'heure l'exemple justement très concret à Dakar, y compris, on va dire, quand quelqu'un en urgence vitale n'est pas solvable, eh bien ce service peut lui venir en aide. Est-ce que c'est la même chose chez vous auprès de SOS Médecins Cameroun ?
Alors, justement, la problématique est un tout petit peu différente. Nous avons constaté que nos politiques sanitaires étaient de plus en plus orientées vers l'amélioration des infrastructures de services d'accueil d'urgence, dans les services d'urgence proprement dit ou en réanimation, mais cette dynamique pourrait permettre de s'interroger sur le rationnel d'une approche interventionniste dans le contexte africain émaillé par la précarité socio-économique ambiante que vous avez évoqué.
Oui, mais docteur Fernand Mbolo, ça veut dire que si quelqu'un vous appelle au secours, hein, pour schématiser, vous appelez SOS médecin, si on vous lance un SOS, est-ce que vous répondez quand on n'a pas forcément les moyens de payer derrière, puisqu'on parle là d'urgence vitale?
Oui, en fait, ce que nous faisons, en gros, c'est nous réduisons ce délai important entre l'urgence signalée et l'intervention. Ça veut dire que nous acheminons les patients vers les structures hospitalières adaptées, ayant déjà fait des gestes de premier secours de base, je parle des urgences de première ligne, et nous acheminons vers les centres de santé appropriés. Et c'est donc pour cela que nous avons réorienté quelque peu notre angle d'attaque, ou mieux, nous l'avons contextualisé en insistant sur le conseil médical 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vu le contexte local. Nous pensons que la médecine préventive, la prévention primaire, reste la clé dans notre contexte africain et camerounais en particulier, pour réduire de manière notable les événements, les urgences médicales avérées. Et donc, pourquoi le conseil médical? D'abord parce qu'à travers ce canal, nous contribuons à désengorger les services d'accueil d'urgence en réduisant la fréquence des motifs de consultation évitables, ce qui permet donc aux médecins en service de se concentrer sur les urgences vraies. Et ce conseil médical a très bonne presse d'ailleurs auprès des populations camerounaises, vu qu'en 16 mois, par exemple, une statistique, nous sommes passés d'une trentaine de messages d'alerte à 300 à 400 messages par jour.
D'accord, docteur Fernand Mbolo, merci infiniment pour ces explications sur cette situation précisément pour SOS Médecins Cameroun. On voit quand même que la problématique décrite par votre confrère de Yaoundé n'est pas tout à fait identique à ce que vous rencontrez, docteur Massamba Sassoum Diop, du côté des urgences à Dakar.
Mais en fait, ça dépend de nous. En fait, on a 20 ans, hein.
Donc c'est, je pense, ça, l'expérience.
Voilà, il n'y avait pas à l'époque de SAMU. Il y avait une structure qui existait déjà qui s'appelait le SUMA. Il y a eu ensuite des développements. Il y a eu urgence cardio. Il y a eu une autre SOS cardio. Il y a eu urgence 24. Enfin, il y a différentes structures qui ensuite se sont développées. Nous, c'est vrai qu'on a 20 ans. Et du coup, à l'époque, étant issu des systèmes formé en tout cas en France, du coup j'ai voulu offrir l'ensemble de, nous avons voulu, parce qu'en fait on était à plusieurs bien évidemment, offrir l'ensemble de l'activité dans la médecine d'urgence, de la petite à la grande. Et c'est évident que la grande urgence, c'est pas possible quand quelqu'un vous appelle de lui dire ben écoutez, non, on peut pas, et surtout quand il n'y a pas de système public. Donc c'est pour ça que je pense qu'en tout cas la problématique est différente avec l'option actuelle, en tout cas peut-être au Cameroun.
Vous dites c'est pas possible de lui dire non, et pourtant on va prendre en ligne, hein, de Kinshasa en République démocratique du Congo Higelin, justement, ce témoignage, hein, on a discuté un petit peu avant l'émission, ce témoignage édifiant, on vous écoute.
Bon, on était parti avec l'oncle paternel. C'était au niveau des cliniques universitaires. Comme on nous avait envoyé là-bas, il fallait se voir avec le docteur. Avant de se voir avec le docteur, il fallait qu'on paye $80. Nous sommes arrivés à 16h, nous ont resté à 19h. C'est qu'ils ont payé, qui était dérangeant. Bon, le docteur était au courant de la situation.
De quoi souffrait votre oncle, Higelin?
Il avait les problèmes, il y avait les veines au niveau des nerfs qu'on pouvait intervenir.
Et finalement, il a été pris en charge? Comment s'est passé l'affaire? Est-ce qu'il a finalement été pris en charge par un médecin après, oui, que vous ayez payé?
Après le paiement, il a passé la consultation. Le lendemain, on l'a opéré. C'est ainsi que tout s'est bien passé.
Et c'était la première fois que vous alliez dans un service d'urgence ou ce genre de situation? En fait, c'est toujours comme ça que cela se passe. Tant que vous n'avez pas d'argent, eh bien, vous n'êtes pas soigné?
Je l'ai vécu même hier quand la fille de mon ami était malade. Il fallait qu'on les perfile. On l'exigeait d'abord pour qu'on paye 30 000 francs avant qu'on touche à la fille.
avant même la prise en charge, y compris d'un enfant en pédiatrie. Merci beaucoup, Higelin, pour ce témoignage. Alors là, on voit le grand écart des situations, parce que quand on parle, par exemple, des urgences médicales en France, quand on interroge les gens qui vont aux urgences, professeur Frédéric Adnet, on voit qu'un certain nombre de personnes y vont tout simplement parce que c'est des fois plus simple que d'aller voir son médecin de ville, que c'est plus simple pour se faire faire une radio, que c'est plus simple pour se faire faire un bilan sanguin. Et là, je vais peut-être être dans la caricature, mais c'est vrai aussi, parce qu'on ne dépense pas un centime quand on va faire tout ça aux urgences.
Oui, je crois surtout que c'est la première hypothèse qui est la bonne, c'est-à-dire que on assiste actuellement, et je le vois bien dans mon département, à une raréfaction de l'offre de soins libérale, l'offre de soins médicale traditionnelle en France, puisque la médecine de famille, le médecin qui va voir toute la famille à domicile, tout ça, ça tend à disparaître, surtout dans nos départements en Île-de-France, et les patients se retrouvent quelquefois démunis, surtout dans les heures non ouvrables, la nuit, le week-end, mais même le jour, les médecins se déplacent de moins en moins à domicile. Et effectivement, il reste alors la dernière solution, il reste l'hôpital. Et on a une certaine tendance actuellement où les patients viennent à l'hôpital, aux urgences, pour des problèmes finalement de médecine générale et de médecine, on va dire, de famille. Mais c'est pas pour ça qu'on ne les voit pas et qu'on ne les soigne pas. D'autant plus que une majorité de médecins urgentistes ont des très bonnes connaissances de médecine générale. Et donc ces patients seront pris en charge, seront diagnostiqués, soignés et partiront avec un traitement. Donc on les reçoit ces patients. Il ne faut pas croire que parce qu'un patient vient pour un motif qui n'est pas une urgence vitale, il va être moins bien pris en charge, moins bien soigné. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il risque d'attendre un peu plus longtemps que les autres. Puisque le temps d'attente aux urgences, c'est pas le premier arrivé qui est servi, c'est le plus grave qui est servi le premier. C'est-à-dire qu'un patient qui est grave va être tout de suite pris en charge, et les patients qui, effectivement, ont des degrés d'urgence un peu moindres, vont un peu plus attendre. Mais tous les patients seront pris aux urgences, mais ce que vous dites est vrai, la raréfaction de l'offre de soins médicaux libéral traditionnel dans nos villes fait qu'il y a une tendance à une augmentation de patients qui viennent aux urgences pour des motifs de médecine générale.
Avec aussi certains changements de pratiques, professeur Frédéric Adnet, quand on parle de la permanence des soins, des médecins aussi qui sont moins disponibles à toute heure du jour et de la nuit, comme c'était parfois le cas avant, particulièrement en dehors des grandes agglomérations. Le médecin se déplaçait, il allait voir des personnes âgées quand il y avait un problème, il allait à domicile et il y avait vraiment cette espèce de continuité dans la vie de famille. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs les médecins de famille. Et aujourd'hui, ça tente à disparaître.
Tout à fait, mais on l'organise quand même, la permanence de soins. Donc pour vos auditeurs, la permanence de soins, c'est l'offre de soins en dehors des heures ouvrables, c'est-à-dire la nuit et les week-ends. Cette permanence de soins, elle s'organise. Par exemple, dans les SAMU, vous avez des médecins généralistes qui régulent, qui sont présents et qui prennent les appels pour les motifs de médecine générale, qui donnent des conseils et qui organisent la venue des patients, par exemple, dans des maisons médicales. On a ouvert beaucoup de maisons médicales la nuit, les week-ends, qui sont les maisons médicales, donc de permanence de soins. Des médecins libéraux peuvent se déplacer, font des tours de garde. Dans mon département, on a une association de médecins qui vont voir les médecins dans les heures de permanence de soins, qui sont directement reliés au SAMU. Donc, c'est vrai que le système traditionnel organisé par l'ordre des médecins tente à disparaître, mais on essaye de mettre en place, et on la met de manière de plus en plus efficiente, une organisation de médecine générale, de permanence de soins, dont le rôle central est la régulation du SAMU.
Avec un mot qu'on n'a peut-être pas utilisé encore et pourtant il va falloir le dire, c'est le mot de surcharge ou de saturation, parce que toutes ces personnes qui vont parfois aux urgences sans que ce soit réellement nécessaire, il y a donc cette conséquence de la saturation. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui en France, professeur Frédéric Adnet?
Alors, je pense pas. La saturation des services d'urgence, elle vient pas des patients qui viennent pour des motifs médicaux, on va dire, qui ne sont pas des grosses urgences. Parce que finalement, ces patients, ils sont pas associés à une grosse charge de travail. On va les examiner, on va leur donner une ordonnance, ils vont repartir. Donc, ça, on sait très bien le gérer. Ce qui fait l'embouteillage aux urgences, c'est plutôt les patients qui nécessitent une hospitalisation et pour lesquels on a du mal à trouver un lit. Et c'est les patients qui, au contraire, nécessitent une énorme surcharge de travail pour le médecin urgentiste, quelquefois qui n'est pas de la médecine, qui est simplement la recherche de place. Et tout ça, eh bien, c'est un goulet d'étranglement et ça provoque cette saturation des urgences.
Et c'est vrai en particulier pour les personnes âgées. Vous vouliez réagir, professeur Sassoum Diop ?
Alors, docteur. Oui, alors, docteur, pardon. Il y a deux, trois choses. Alors, d'ailleurs, à propos de ça, le professeur Adnet est le premier, je ne sais pas si vous le saviez, le premier professeur en médecine d'urgence.
Donc, de pas France. De confusion. Donc, c'est
non, de France.
Pour enseigner.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier de l'histoire de la médecine en France qui a eu le titre de professeur en médecine d'urgence. Donc,
je vais le préciser.
Et d'ailleurs, c'est dans son service, ensuite, que j'ai passé mon diplôme de médecine d'urgence, qui était les premiers. Alors. C'était juste, par rapport à ça, deux, trois choses très rapides. D'une part, par exemple, si typiquement, quand vous avez quelqu'un qui effectivement vient à 3h du matin avec une entorse de cheville pour laquelle il a mal depuis 3 semaines et qui dit qu'il vient parce que c'est l'heure où il pense qu'il y aura le moins de patients, ça pose un évident problème. Parallèlement, je pense que comme le disait le professeur Adnet, l'évolution, quand moi j'étais jeune médecin, quand je suis arrivé, quand j'étais en France, il y avait 2000 médecins chômeurs. Aujourd'hui, il y a une désertification totale. Donc en fait, c'est là où on voit qu'effectivement, c'est toutes ces problématiques en même temps. Et effectivement, le fait qu'il y a une réduction, une volonté, une politique de réduction du nombre de lits, qui fait que, au bout, pour les hospitalisations, c'est une catastrophe.
Merci beaucoup. Hein. Merci, docteur Massamba Sassoum Diop. On pourra en parler encore longtemps. Médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar, au Sénégal. Merci à vous aussi. Professeur Frédéric Adnet, d'être venu dans les studios de RFI. Je rappelle donc que vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne, directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Y a-t-il urgence, publié aux éditions Flammarion et coécrit avec Sandrine Trouvelot.
Priorité santé sur RFI.
Et à présent, nous partons pour le Bénin, où se déroule toute cette semaine dans le centre du pays à Parakou, la semaine du cœur, 6e édition, organisée par l'ONG Vicène Cœur Saint. En ligne, le docteur Léopold Kodjo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin cardiologue au CHU départemental de Borgou, donc au Bénin, coordonnateur général du comité interorganisationnel de cette semaine du cœur de Parakou 2017. Alors, à qui d'abord s'adresse cette semaine de sensibilisation?
Alors, je vous remercie. Cette année, cette semaine de sensibilisation s'adresse d'abord à toute la population de Parakou, mais spécialement aux élèves, aux collégiens, qui sont notre cible prioritaire. Ceci parce que des travaux que nous avons réalisés en 2016 ont montré une prévalence très élevée d'obésité et de pression artérielle élevée au sein de ces collégiens. Et donc, nous avons voulu donc nous rapprocher d'eux à travers différentes activités pour les sensibiliser sur les facteurs de risque et cardiovasculaires et également les maladies cardiovasculaires.
Alors justement, pour toucher ces jeunes, vous avez ciblé ces activités, du spectacle, du divertissement et même du sport, tout cela donc pour parler de la santé du cœur.
Effectivement, nous avons voulu rendre l'édition de cette année un peu ludique et donc des conférences ont été organisées dans les collèges. Ces conférences, à travers des chants, des danses, des slogans, des images projetées, nous avons fait comprendre aux élèves le problème cardiovasculaire. Ensuite, des matchs de football ont été organisés entre les collèges. Donc, la finale se jouera le samedi prochain. Et depuis hier, nous avons commencé le dépistage sur une place publique des facteurs de risque. Ceci s'adresse beaucoup plus à la population adulte. Donc, nous sommes à la place Tabera où nous dépistons la pression artérielle élevée, l'obésité, l'hyperglycémie. Et il y a un groupe de médecins qui est là et qui donne des conseils à la population. Le clos des manifestations sera donc le samedi où nous allons faire la grande marche du cœur. Donc c'est une marche qui démarre à 6h30, qui regroupe enfants, adultes, autorités, population ordinaire. C'est une marche qui va se dérouler sur 6,5 km Le départ, c'est le stade municipal. L'arrivée, c'est le stade municipal. Donc voilà un peu les principales activités que nous allons mener au cours de toute cette semaine de campagne.
Alors, marche du cœur pour mettre en garde justement contre certaines mauvaises habitudes, certains facteurs de risque, comme la sédentarité.
Oui, absolument. La marche, donc, c'est un exemple que nous donnons pour prouver aux gens que tant toutefois faire entre griffes le sport, rien qu'en marchant, on peut préserver une bonne santé cardiovasculaire. En général, lors de la marche du cœur, nous attirons l'attention des participants également sur les critères d'arrêt de l'activité physique. Parce que c'est vrai, il faut faire la marche pour sauvegarder une bonne santé, mais il faut savoir aussi dans quelles conditions il faut pas faire le sport ou dans quelles conditions il faut arrêter le sport. Donc, c'est vraiment une activité qui synthétise toutes les informations sur le sport et la santé cardiovasculaire, disons la santé en général.
Et avec les mauvaises conduites à éviter, hein, on pense bien évidemment au tabagisme, limiter également la consommation d'alcool. Est-ce que ça marche bien justement cette formule entre spectacle, conférence, formation, sport ?
Oui, je pense que avec les retours que nous avons depuis le début des activités, surtout concernant les enfants, ça marche bien parce que en s'amusant, on apprend, on leur laisse de petits messages, de petits prospectus à l'endroit des parents. Nous n'avons pas encore un grand recul pour évaluer, mais nous pensons que d'ici quelques années, nous allons évaluer quand même l'impact de ces activités d'éducation de la population sur donc le devenir.
Et les étudiants, les lycéens que vous rencontrez, même les collégiens, comment est-ce qu'ils jugent cette semaine du cœur ? Est-ce qu'ils viennent volontiers ou est-ce qu'ils viennent finalement parce qu'ils sont forcés puisque c'est dans le cadre de l'école ?
Bon, j'aurais du mal à répondre parce que nous nous rendons dans les collèges, les enfants sont rassemblés. Mais comme il y a un peu du jeu, de la musique, de la danse, ça captive vraiment leur attention et à la fin, ils sont très contents. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'il y a des enfants qui n'en savaient rien du tout du diabète, de l'hypertension, et dès qu'on leur en parle, ils retrouvent leurs parents dedans, ils témoignent d'un parent qui a fait un accident vasculaire cérébral. Vraiment, je pense qu'ils sont vraiment intéressés.
Merci beaucoup, docteur Léopold Kodjo. Je rappelle que vous êtes médecin cardiologue au CHU départemental de Borgo au Bénin. Demain, dans Priorité Santé, on parlera des méfaits du tabagisme à l'occasion du mois sans tabac.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.